Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Comme annoncé la semaine dernière, cet épisode sera un épisode de Nicolas Gouri. Néanmoins, je voulais rapidement prendre le temps de vous rappeler que ce podcast est soutenu par ses auditeurs, c'est-à-dire que je suis sur Patreon, donc patreon.com. C'est un site qui permet de faire des micro-paiements. Donc par mois, vous pouvez décider d'envoyer une somme. C'est pas, comme je l'explique à chaque fois, ce n'est pas un don unique, hein, c'est un système qui permet de faire un versement régulier. Par exemple, vous décidez de donner 1$ par mois au podcast. Et voilà, encore une fois, c'est important. C'est vrai que pour soutenir le travail que je fais, ça va évidemment pour les frais du balado, mais aussi potentiellement si on allait au-delà des frais, évidemment, pour Bruxelles Sceptique au pub, etc. L'ensemble de mes activités sceptiques, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, mais grâce au versement, enfin au don que j'ai reçu sur Patreon ces derniers temps, je me suis acheté un nouveau casque, hein, que j'utilise depuis quelques mois pour les interviews. Je pense que vous avez tous pu constater le changement de qualité sonore au niveau des interviews via Skype. Eh bien, ça, c'est une conséquence directe des auditeurs qui ont décidé de soutenir financièrement le podcast. Merci à eux. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous êtes fan du balado, si vous voulez encourager les activités qui sont liées au balado et autour du balado, à toutes les activités sceptiques qu'on essaye de mettre en place par ici, n'hésitez pas à aller donc sur Patreon. Donc c'est comme patron mais avec un patreon.com, et vous tapez scepticisme scientifique, vous le trouverez facilement. Voilà, sur ce, je cède la parole à Nicolas Gouri.
Retour sur le plateau de CML Matin, fidèle au poste où l'on accueille à présent le docteur Jean-Jacques Charbonnier, auteur du livre « Les preuves scientifiques d'une vie après la vie » aux éditions Exergue. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes anesthésiste réanimateur. Ce livre est en quelque sorte un condensé à la fois de vos expériences professionnelles et de vos recherches personnelles. Alors initialement, première question, pourquoi ce livre? Pourquoi avoir besoin de preuves justement pour étayer vos théories?
Pourquoi ce livre? Ben parce qu'il n'existait pas. Voilà. Ça, c'est une bonne réponse déjà. Les preuves scientifiques sont là. On a maintenant des preuves scientifiques médicales. La médecine est une science. Et on a la preuve que lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, c'est-à-dire la définition actuelle de la mort clinique, eh bien, les gens étaient capables d'avoir une perception, une cognition. Ils étaient capables de voir ce qui se passait autour d'eux. Ils étaient capables d'appréhender même ce qui se passait à distance de leur corps physique, au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc, à moins d'être complètement bouché, hein, eh bien, on a là la preuve que l'après-vie existe, qu'il existe une forme de vie et de conscience après la mort. Donc, c'est tout à fait révolutionnaire.
Salut, c'est Nicolas Gouri pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Et effectivement, nous allons parler de cette chose tout à fait révolutionnaire, de ces preuves indubitables, à moins d'être complètement bouché, de l'existence de la vie après la mort. Mais on ne va pas parler des travaux du professeur Charbonnier que vous venez d'entendre ici, on va parler d'autre chose, une autre expérience qui n'a pas été choisie au hasard. Alors je vais peut-être un peu préciser de quelle expérience il s'agit et puis vous décrire ensuite comment elle a été réalisée, et ensuite on passera à la critique de l'expérience. Je commence par préciser que l'expérience dont nous allons parler, et même si j'ai pu avoir jusqu'à présent un ton un petit peu ironique, peut-être que vous avez décelé un petit peu d'ironie dans mon ton, un petit peu de moquerie. L'expérience dont nous allons parler a été choisie précisément parce que elle n'est pas du tout absurde, elle est bien faite. On peut quand même faire des critiques, et on en fera bien sûr, mais ça a été fait par quelqu'un qui, visiblement, a essayé de bien faire, a essayé de répondre à des critiques qu'on lui avait faites, et c'est pour ça que c'était particulièrement intéressant. Alors je vous parle de ça aujourd'hui parce que vient de sortir un livre en anglais et à un prix totalement prohibitif, je crois, de 70€. Vient de sortir donc un livre sur cette idée de la vie après la mort, qui aborde, entre autres choses, les preuves, entre guillemets, scientifiques, ou plutôt les preuves, entre guillemets, scientifique, de la vie après la mort. Et donc, il y a un chapitre, notamment, qui aborde l'expérience dont je vais vous parler aujourd'hui, une expérience particulièrement bien faite et remarquable par certains points de vue, mais qui a, malgré tout, au moins un défaut absolument énorme qui remet en cause tout cela, mais enfin, quand même, voilà, y a eu du travail, c'est pas fait n'importe comment, on va en parler tout à l'heure. Et ce chapitre, eh bien, j'y ai participé, alors c'est un petit peu vieux, j'ai dû me replonger un peu dans le chapitre pour me souvenir de ce que nous avions fait, et voilà, j'en profite donc, je profite de la sortie de ce livre pour vous faire un petit résumé de ce qu'on y raconte, et surtout pour me focaliser sur ce qui me paraissait le plus important, parce que pour ceux qui iraient voir le livre, vous verrez qu'on est plusieurs auteurs sur le chapitre qui correspond à cette étude de Bechel et Schwartz, mais en fait on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde, les co-auteurs et moi. Et notamment, j'ai eu l'impression qu'ils avaient tendance à ajouter des critiques qui n'étaient pas nécessaires et qu'il vaut mieux se concentrer sur la critique principale qui va être le thème de cette courte émission.
Imaginez que vous êtes en train de parler au téléphone avec quelqu'un et que soudainement, un ami qui est mort depuis plusieurs années vient interrompre votre conversation. Vous ne seriez pas le premier, semble-t-il, à qui cette expérience arriverait. François Brune est un père catholique de 58 ans qui habite Paris. Il affirme qu'il a été témoin de manifestations sonores et visuelles venant de l'au-delà. Ces contacts entre les morts et les vivants auraient été établis grâce à des téléviseurs, des magnétophones et même grâce à des téléphones. Récemment, François Brune est venu à Montréal pour nous montrer des enregistrements de ces presque conversations entre des morts et des vivants.
Il y a plusieurs idées pour démontrer l'existence de la vie après la mort qui ont été essayées, hein, des pistes qui ont été parcourues. Parmi celles-ci, évidemment, il y a, vous avez entendu parler plusieurs fois, je crois, dans le balado, des expériences de mort imminente. Et puis, ben, il y a aussi ces voies d'outre-tombe, ces contacts avec les morts que, apparemment, certains peuvent obtenir, ce qui est vraiment tout à fait remarquable. Personnellement, je n'ai jamais réussi, mais bon, il semble que certaines personnes arrivent à communiquer avec les morts. Alors ça, c'est vraiment le moyen le plus évident, peut-être, utiliser ces médiums pour prouver qu'il y a une vie après la mort. Alors le problème, c'est que nous sommes entourés de sceptiques qui, lorsqu'ils entendent des voix comme celle-ci, prétendent qu'en réalité, il ne s'agit pas de personnes décédées. Et il leur faut des preuves, et malgré les déclarations de l'éminent professeur Charbonnier, eh bien, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits des preuves existantes, et donc il faudrait trouver autre chose encore pour les convaincre. Voilà, les voix ne suffisent pas.
On pourrait s'étonner que ces voix ne suffisent pas à convaincre tout le monde, puisque il suffit de les écouter pour se rendre compte que manifestement ce ne sont pas des voix terrestres.
Voilà, bon, revenons à quelque chose d'un peu plus sérieux quand même. L'expérience dont on va discuter maintenant donc a été présentée lors de plusieurs conférences et a fait l'objet de quelques publications, alors je ne dirais pas scientifiques, mais en tout cas ça ne fait pas partie des listes de revues scientifiques que j'ai pu trouver, et pourtant ces listes contiennent des milliers d'ouvrages, mais je crois quand même qu'il s'agit de publications qui ont mime au moins un peu les publications scientifiques habituelles avec des reviews par les pairs, etc. Et puis, comme on va le voir, ça présente donc, ce sont des expériences pas faites n'importe comment, où il y a quand même un travail derrière méthodologique important pour essayer de répondre à des critiques qui avaient été faites à tout un tas de recherches auparavant. Qui utilisent toutes, et c'est ce qu'elles ont en commun, et c'est de ça qu'on va parler simplement, qui utilisent toutes cette idée que grâce à la communication avec les morts que peuvent fournir les médiums, eh bien on va pouvoir prouver qu'il existe bien une vie après la mort. Alors les auteurs des articles sont deux, mais je crois que l'idée de départ et l'expérience de départ est essentiellement due à Julie Bechel, Vous trouverez dans le livre ou sur le site les références au moins indirectes de ces expériences dont on va décrire l'un des protocoles. En fait, il y a toute une série de protocoles. Je crois que Julie Bachal a essayé de répondre au fur et à mesure à des critiques de plus en plus pointu qu'on lui faisait pour essayer d'arriver à un protocole qui soit le mieux, meilleur possible et qui, malgré tout, n'est pas tout à fait parfait. Alors, l'idée du protocole est la suivante. L'idée générale, c'est de dire que si on peut, grâce au médium, communiquer avec les morts, eh bien, il suffit qu'un mort puisse donner au médium une information que le médium ne pouvait pas obtenir par une voie normale pour qu'on puisse dire que eh bien, il y a bien quelque chose, on a bien moyen de récupérer des informations. Alors, dans une pirouette, si on veut, de prudence tout à fait amusante, évidemment, les auteurs concluent régulièrement que tout cela, lorsque l'expérience est concluante d'après eux, tout cela ne prouve pas nécessairement la vie après la mort, mais prouve en tout cas qu'il existe des moyens d'obtenir des informations que aucun moyen naturel connu à ce jour ne permette d'obtenir. Donc l'idée est simple, c'est simplement de faire en sorte que le médium nous donne une information qu'il n'a pas pu obtenir par un moyen normal. Alors, on pourrait simplement placer face à face un médium et puis quelqu'un qui a perdu un être cher récemment, c'est la base un peu de l'expérience de Bechel, mais à cela, on a fait beaucoup de critiques, et notamment, vous connaissez toutes ces techniques utilisées par les médiums d'ailleurs, qui permettent de trouver des informations et de faire croire à la personne qui est en face qu'on lui a fourni des informations qu'on n'aurait pas pu avoir normalement, alors qu'en réalité, c'est elle qui nous les a données sans même s'en rendre compte. Alors, je ne vais absolument pas détailler, je crois d'ailleurs qu'on en a déjà parlé dans le balado de ces histoires-là, mais là, je ne parle pas de fraude, je ne parle pas de médiums qui vont en douce aller chercher des informations sur vous avant que vous alliez les voir, mais simplement par la manière de poser les questions. Les médiums arrivent à vous faire croire qu'ils vous ont donné des informations quand en réalité c'est vous qui leur avez donné les informations et ils n'ont fait que répéter ce que vous leur aviez donné. Et donc une des techniques, c'est par exemple de se concentrer et de dire « Ah, j'ai un nom qui me vient à l'esprit, mais c'est pas très clair, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. » Alors son nom c'est John, James, je ne suis pas sûr, je vois un J, et pendant que le médium est en train de citer comme ça tout un tas de noms extrêmement courants qui commencent par J, il vous regarde l'air de rien, et puis il voit bien quand vous tiquez, et ce serait très étonnant que vous ne connaissiez pas, si vous êtes anglophone, si vous habitez aux États-Unis, ce serait très étonnant que vous ne connaissiez ni John, ni James, ni Jim, etc. Et donc on finit par trouver un nom comme ça. Et ce qui se passe assez souvent, c'est que la personne à qui le médium a parlé, le client si on veut, est très étonné et se dit « c'est incroyable, comment a-t-il pu deviner ce médium ou cette médium, comment a-t-il pu deviner que je connaissais quelqu'un qui s'appelait par exemple Jimmy ?» alors qu'en fait, évidemment, le médium n'a rien deviné du tout. Alors pour, évidemment, contrer ces problèmes possibles, il était important que, dans l'expérience de Bechel, le médium ne soit pas en contact direct avec la personne en face de lui. D'autre part, assez souvent dans les expériences, c'est un deuxième défaut méthodologique très fréquent, assez souvent on utilise des choses un peu générales. C'est-à-dire que par exemple le médium va vous dire « vous avez connu quelqu'un qui faisait beaucoup de vélo, j'invente, je dis n'importe quoi ». Et ensuite, ben, comment on peut faire pour tester si oui ou non ces prédictions, donc je suppose que vous avez connu quelqu'un qui fait beaucoup de vélo, comment on fait pour tester ça? C'est assez délicat à faire tout simplement parce que la phrase est floue d'abord, que si c'est le client qui décide si la phrase est juste ou pas, eh bien, il aura tendance à acquiescer un peu trop. Ça, c'est un biais assez connu en psychologie. On a tendance à se reconnaître dans toutes ces descriptions. On va chercher simplement, parmi toutes nos connaissances, quelqu'un qui faisait beaucoup de vélo. Et puis, beaucoup de vélo, c'est très flou. Ça peut être quelqu'un qui en fait de temps en temps, qui collera quand même à la description. Donc, voilà, tout ça, c'est pas très sérieux et c'est un reproche aussi récurrent qu'on fait à ce genre d'études. Alors là, cette question-là est complètement résolue par Bechel et Schwartz, puisqu'ils ont à la fois un protocole en aveugle, ce qui fait qu'il n'y a pas de contact, à aucun moment il y a un contact direct entre la personne qui cherche à entrer en communication avec un proche décédé et le médium. Donc ça, c'est un premier élément très important. Et puis le deuxième élément très important, c'est qu'on a un choix binaire, et donc il est très facile de faire des statistiques et de dire si oui ou non, les résultats obtenus dépassent ce qu'on pourrait obtenir normalement par le hasard. Alors comment ça s'est fait? Eh bien, de manière assez simple, Julie Bechel a apparié les participants, c'est-à-dire les personnes donc, qui ont connu un décès assez récemment, et elle les a, donc apparié, ça veut dire mis deux par deux, je préciserai après comment elle a fait ça. Par exemple, vous pouvez avoir deux personnes, deux participants qui sont mis ensemble. Alors on faisait attention au sexe de la personne décédée, et imaginons par exemple deux personnes, l'une a perdu sa copine Marie il y a quelques mois, et l'autre a perdu sa mère Elisabeth il y a quelques années. Voilà, et ces deux personnes sont mises ensemble. On va, de manière indirecte, comme je vais détailler peut-être juste après, de manière indirecte, on va faire parvenir presque aucune information au médium en lui demandant de retrouver le Marie et Elisabeth qui sont décédées et de donner des indications physiques, donc comment était, est-ce que Marie était blonde, brune, avait les yeux bleus, et sur les également sur les circonstances du décès de Marie et d'Elisabeth. Et le médium rédige deux descriptions qui prennent en compte les éléments demandés. Ces deux descriptions sont ensuite retravaillées dans un sens très simple, c'est simplement qu'on élimine le prénom, et donc on a deux descriptions complètement anonymes. Et ces deux descriptions, on va les montrer aux deux participants qui ont été appariés au départ, en leur demandant laquelle des deux correspond le mieux à la personne à laquelle ils pensent. Donc la personne qui a perdu son amie Marie, par exemple, devra décider laquelle des deux descriptions correspond le mieux à sa copine Marie. Voilà les bases de cette expérience. Alors je vais redétailler juste un tout petit peu pour vous dire comment la procédure en aveugle est faite, c'est-à-dire comment on arrive à éviter tout contact entre le participant et le médium. Eh bien, par l'intermédiaire d'une troisième personne, une personne tiers, qui va jouer un rôle d'interface entre le participant et le médium. Donc en réalité, voilà comment ça se passe. Le participant donne à la personne tiers, donc à cette troisième personne qu'il n'a jamais vue avant, uniquement le prénom de la personne décédée. Donc le participant ou la participante hypothétique dont je vous ai parlé tout à l'heure, tous les participants et participantes étaient des étudiants à l'université, et donc voilà, ce participant dira simplement à la troisième personne, la personne à laquelle je pense s'appelle Marie. Et cette personne va voir le médium et lui dit, la personne à laquelle on pense s'appelle Marie. Et c'est la seule information dont dispose le médium lorsqu'il fait sa description. Voilà, peut-être que déjà vous avez repéré où est l'erreur méthodologique et en quoi elle peut expliquer les résultats dont on va parler juste après. Résultats qui, bien évidemment, vont dans le sens attendu par Bechel. Je vais repréciser tout à l'heure les résultats, peut-être. Mais vous voyez où est le problème, c'est qu'en réalité, le médium dispose d'une information. Et cette information, c'est le prénom de la personne décédée. Alors on peut dire avec un prénom, on ne va pas faire grand-chose, surtout qu'on a apparié, Bechel a fait attention à ça, on a apparié les gens pour que les deux personnes décédées soient de même sexe. Donc on ne va pas avoir un prénom masculin, un prénom féminin. En réalité, en lisant l'article de Bechel, on voit où est l'énorme problème méthodologique, parce qu'il y a deux sortes de personnes décédées parmi l'ensemble de l'échantillon. Il y a des pairs, c'est-à-dire des camarades, des étudiants. Donc j'ai pris cet exemple tout à l'heure en disant peut-être le participant a perdu une amie qu'il connaissait, qu'il ou elle connaissait à l'université il y a quelques mois. Et puis dans d'autres cas, dans l'autre moitié des cas, il s'agissait de parents, donc soit des parents directs, soit des oncles, des tantes ou des grands-parents, c'est-à-dire une autre génération. Et j'avais pris comme exemple Elisabeth parce qu'il s'agit précisément d'un nom qui a été, d'un prénom qui a été à une époque dans les pays anglo-saxons très courant et qui ne l'est plus du tout. Ce qu'on voit avec cet exemple, et il y a encore beaucoup d'autres biais possibles dont je vais dire un mot après, c'est qu'en réalité, si parmi les deux prénoms dont dispose le médium, hein, puisqu'il a deux descriptions à faire, si l'un correspond à un prénom d'étudiant typique et l'autre correspond typiquement à quelqu'un de plus vieux, eh bien, quelques connaissances sur les causes possibles des morts donnent déjà beaucoup d'informations. Et notamment quand un jeune décède à l'âge où on est à l'université, le plus souvent c'est soit d'un accident de voiture, soit à cause d'un suicide. Alors qu'une personne plus âgée sera plus fréquemment décédée soit d'un cancer, soit d'une maladie cardiaque. Et avec ça, déjà, on a une information tout à fait capitale. Autrement dit, si vous imaginez l'expérience faite en France, par exemple, eh bien, si on vous dit que la personne décédée s'appelle Kevin ou Jordan, et qu'elle est décédée donc il y a un ou deux ans, vous pouvez deviner que c'était plutôt un étudiant qu'un grand-père ou une grand-mère, et donc vous pouvez proposer comme hypothèse qu'elle est morte dans la description soit d'un accident de voiture, soit d'un suicide. Et puis si au contraire la personne s'appelle Jean-Paul par exemple, eh bien vous pourrez supposer qu'elle est plutôt décédée d'une crise cardiaque ou d'un cancer. Or, ce qu'a fait Bechel pour augmenter la puissance de son test, c'est, dit-elle, qu'elle a organisé les paires de telle sorte que le contraste soit le plus grand possible entre les descriptions faites par les participants causes de la mort et puis des personnes qui étaient en cause. Et donc, très probablement, dans chaque paire ou dans une majorité de paires, il y avait précisément un jeune décédé et puis quelqu'un qui est décédé beaucoup plus tard, ce qui donne une information absolument pas négligeable au médium. Eh bien, ce seul défaut méthodologique suffit à expliquer très largement les résultats qui ont été trouvés, puisque bien qu'ils aillent et qu'ils soient significatifs, tout à fait dans le sens attendu, c'est-à-dire que par la suite, les participants, lorsqu'on leur montre les deux descriptions correspondant donc à leur cas et puis au cas de l'autre étudiant, dans plus d'une fois sur deux, ils arrivent à retrouver la bonne description. Mais donc si ce pourcentage dépasse ce qu'on attend du hasard, et si c'est significatif, ça ne l'est que légèrement, c'est pas quelque chose d'extraordinairement significatif, et puis l'effet n'est pas très fort, et un tel effet peut tout à fait s'expliquer par l'élément qu'on a donné juste avant, le problème méthodologique lié au fait que le médium connaît le prénom de la personne décédée, ce qui est tout à fait suffisant. Dans le chapitre, pour ceux qui iraient voir un petit peu les détails, vous verrez qu'on a ajouté d'autres critiques, mais qui sont vraiment mineures par rapport à celles-ci. Il me semble que là, on tient vraiment le défaut méthodologique principal et c'est qui explique vraiment toutes les erreurs qui ont été faites par la suite. Il y a aussi des choses critiquables sur la manière dont les statistiques ont été faites, mais je ne pense pas qu'elles remettent fondamentalement en cause la conclusion. C'est vraiment un problème méthodologique qu'on a ici, lié au prénom de la personne. Alors, refaire une expérience à la Bechel, mais qui soit bien faite, ce ne serait pas très compliqué en réalité, puisque si on peut considérer qu'il y a quand même des choses un peu étranges dans cette expérience qui nous prouve quelque chose sur les morts, en tout cas, si on suppose que, évidemment, si on suppose qu'il y a bien une vie après la mort. La première chose qui m'étonne un peu, en tout cas, c'est qu'avec seulement le prénom, le médium arrive à retrouver la bonne personne. Autrement dit, vous dites au médium, essayez de retrouver quelqu'un qui s'appelle Marie, on ne sait pas à qui elle est liée, et le médium arrive à entrer en contact avec la bonne Marie décédée, c'est tout à fait extraordinaire. Et on peut se dire que si un médium est capable de faire quelque chose d'aussi extraordinaire, c'est-à-dire retrouver parmi les millions de Marie décédées pendant les années précédentes la bonne, sans avoir aucune information à part le prénom, eh bien très probablement il doit être capable aussi de faire un peu plus que ça et retrouver la personne sans avoir son prénom. Alors Bechel explique que c'est possible que le médium arrive à retrouver la bonne personne parce que lorsque le participant pense à Marie et lorsqu'il dit à la troisième personne la personne à laquelle je pense s'appelle Marie, eh bien, la Marie en question, qui se trouve quelque part dans un autre monde, entend le message et du coup, elle-même fait un effort pour entrer en contact avec le médium. Alors, en supposant que ce soit vrai, ce qui voudrait dire que les morts non seulement peuvent parler au médium, mais peuvent nous entendre, eh bien, il suffirait, je pense, ce serait beaucoup mieux, il suffirait de donner un code aux personnes décédées. Et donc, au lieu de demander aux participants de donner le prénom de la personne décédée, on lui demanderait de se concentrer et de dire à Marie, par télépathie d'outre-tombe, attention, c'est pas n'importe quel type de télépathie, c'est une télépathie d'outre-tombe, lui dire, eh bien voilà, tu dois entrer en contact avec un médium à partir du code C024, par exemple, hein, des codes aléatoires. Et puis on dirait au médium simplement entrer en contact avec la personne décédée dont le code est C024. Ou alors, si on ne veut pas rentrer dans ces considérations, et si on pense que les personnes décédées, en fait, ne peuvent pas entendre ces histoires-là, eh bien, il faudrait contrôler la fréquence des prénoms en fonction de l'âge, ou alors apparier pour que les personnes qui sont les participants qui sont mis ensemble, eh bien, aient des prénoms à donner qui aient été à la mode au même moment, et non pas à des moments très différents, comme c'était le cas dans l'expérience de Bechtel. Voilà, donc vous voyez que malheureusement, cette très belle expérience, alors on s'y intéressait pas pour rien, hein, comme je vous le disais au début, on s'y intéressait parce que d'après mes collègues qui sont beaucoup plus au courant que moi de ces questions-là, il s'agit d'une des expériences les plus avancées et les plus sérieuses méthodologiquement qui essayent de démontrer l'existence de la vie après la mort. C'est-à-dire que l'idée un peu de cette critique, hein, était de dire que même l'expérience la mieux réalisée, celle qui est vraiment à l'avant-garde de la recherche sur la vie après la mort, eh bien, souffre encore de défauts tout à fait embêtants et qui expliquent les résultats et qui donc remettent complètement en cause la conclusion, malheureusement. Et donc on ne sait toujours pas si après la mort il y a quelque chose ou rien, mais j'ai ma petite idée quand même qui me vient de l'histoire de la théière de Russell. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel. Et je vous laisse en compagnie d'une médium absolument extraordinaire. Vous allez entendre le début de son histoire.
Cette femme serait capable de voir et de donner des détails d'une incroyable précision en entrant en contact avec des personnes décédées. Pourtant, elle est aveugle de naissance. Nous sommes à Belfast, en Irlande du Nord. Teddy Lavery n'oubliera jamais le jour où il est allé frapper à la porte de cette médium. Veuf depuis quelques années, il n'arrivait pas à faire le deuil de son épouse.
Avant de la rencontrer, je ne croyais pas à toutes ces choses. Je suis quelqu'un de sceptique, mais une amie m'a parlé de Sharon. Ma femme est morte depuis plusieurs années, et j'avais envie de voir ce que cette médium allait me dire.